Salut les raisins secs, cette semaine on a vécu l'enfer de vivre en pleine fournaise. La canicule, tout un concept qui nous a rappelé qu'il pouvait faire plus chaud à Paris qu'à Dubaï, plus chaud à Brest qu'à Tombouctou, alors même que notre pays a choisi de nier l'existence du climatiseur. Comme une F1 moderne, vous avez mal régénéré avec peu de sommeil, impossible de déployer sous 44 degrés, au ralenti complet, comme si l'antistall de votre corps s'était mis en branle, exactement ce qui m'est arrivé lors du dernier débrief. Vous avez rêvé d'air, de fraîcheur, mais si vous pensez avoir souffert de cet épisode de chaleur, ayez une pensée pour la Scuderia Ferrari en surchauffe à Spielberg pour un scénario dramatique. Ils se sont crus en pôle, ils sont finalement partis deuxième et troisième pour arriver cinquième et huitième. Preuve que Yann Barthès avait décidément tout faux. Non, on n'est pas tous égaux face à la canicule. Alors baissez le son et rendez-vous au premier débat. Valide ton paddock pass, on te pistonne dans le club des vrais experts de la F1. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, la huitième émission du Paddock Pass dans cette saison 2026 de Formule 1. On s'est permis un petit trait d'humour bien évidemment sur cette canicule et on l'a relié à la Formule 1. Mais on a une immense pensée à tous ceux qui ont souffert bien évidemment et on pense à vous notamment dans cette nouvelle semaine. Lui a beaucoup souffert mais il est en pleine forme aujourd'hui, c'est monsieur Brice Germain. Comment ça va mon Brice?
Pas dans une forme extraordinaire. Voilà.
Pas dans une
forme. Non, ça va aller, on va dire.
Petite coulisse quand même de cette émission. Brice est un peu le Pierre Richard de Paddock Pass. Si tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vient de se passer à la machine à café là à l'instant.
Je suis arrivé devant la machine, il y avait marqué gobelet vide. Du coup, je suis allé à la machine au-dessus. Arthur, il m'accompagne, il a pas que ça à faire.
Nous non plus.
Le grand boss. Il passe le badge, je prends le café. Il tombe. Je m'en refais un. Bref, je mets l'émission en retard d'un quart d'heure. Dans l'ensemble de mon groupe de potes et de mes collègues, je suis seul à prendre un coup de chaleur pendant le week-end après la canicule. Ma vie c'est de la merde.
Il y aura des meilleures semaines mon Brice. Et c'est pour ça aussi qu'on t'aime et qu'on est ravis de te retrouver. On retrouve aussi également notre ami Pierrot Despiello. Mon Pierrot, il y a 15 jours on s'est vu. Tu sortais des 24 heures du Mans. Et là on se voit, tu sors des 24 heures de Spa. Où trouves-tu toute cette énergie?
Je sais pas, mais j'ai failli prendre un coup de chaud moi aussi quand même à Spa. Parce qu'il faisait 45 je crois, ce qu'indiquait la nouvelle tour du circuit de Spa-Francorchamps. Et effectivement avec le béton qui garde toute la chaleur, autant te dire que c'était un peu l'enfer. Et GG à tous les pilotes qui ont pris le départ des 24 heures parce que dans les voitures c'était des fournaises absolues. Donc voilà, et puis la course a été relativement magistrale comme c'est le cas à Spa généralement. Donc voilà, mais heureux d'être ici avec ces nouveaux bureaux là.
Exactement,
ça fait 6 mois qu'on les demande.
Ça va faire plaisir à notre copain Hamza Rahmani les amis, qui est aux États-Unis pour la Coupe du Monde. On a une pensée d'ailleurs pour notre copain Hamza, déjà parce qu'il est brillant, mais parce que si c'est galère pour nous de suivre la Coupe du Monde, bah ça va être galère pour lui de suivre la saison de F1.
Voilà. Exactement. Non, vrai, bah écoute, il rattrapera et puis
je vais pas le plaindre.
Moi non plus, mais voilà, on l'embrasse.
Pourquoi?
On l'embrasse chaleureusement le père Hamza. Petit rappel les gars, puisque c'est le débrief de ce Grand Prix d'Autriche, 8ème manche de cette saison 2026. Petit rappel justement du résultat de cette course qui comptait 71 tours et qui a consacré George Russell sa deuxième victoire dans cette saison. La deuxième place de Max Verstappen, son meilleur résultat dans cette saison. La deuxième Mercedes, celle du leader du championnat du monde, Antonelli, est à la troisième place. Piastri qui termine devant Lando Norris, 4ème position, Lewis Hamilton seulement 5ème, Isaac Hadjar dans le top 6, 4ème top 6 consécutif, Norris 7ème, Leclerc seulement 8ème, et Liam Lawson et Arvid Lindblad, eh bien, qui sont les deux pilotes Racing Bull qui complètent justement ce top 10. Ça nous emmène tout de suite au sommaire de cette émission. Quels sont les 4 thèmes qu'on va aborder ensemble, les 4 enseignements à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche? On va parler de George Russell, le coup de Trafalgar qui relance tout au championnat, c'est la question qu'on aura l'occasion de se poser. Red Bull aussi, de quoi convaincre Max avec ce nouveau package et des performances en tout cas en hausse. Ferrari, allô? Ouais.
C'est-à-dire?
Ouais. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Et puis Racing Bull qui écœure le midfield, ce sera l'occasion bien sûr d'évoquer eh bien, ce que vous ne voyez jamais à la réalisation, ce qui se passe bien évidemment juste un petit peu après eh bien, les attaques de tête. Pardon. Premier enseignement les gars, on fonce tout de suite sur George Russell, sur la question de Mercedes, sur ce coup de Trafalgar qui relance tout, Russell qui regoute à la victoire, mais tout a commencé par le coup de Trafalgar. On va y revenir bien sûr après avec un décryptage de notre ami Pierrot. On est en Q3, Verstappen se rate au dernier virage, tape le mur à ce moment-là, drapeau jaune, Russell qui avait dominé les EL1 et qui avait été dominé pardon en EL1 et EL2 par Antonelli lève suffisamment pour réaliser la pole position, ce qui va engendrer une certaine polémique. De la maîtrise plus que de la domination, c'est une question difficile de dire si c'était George Russell qui avait le meilleur rythme, en tout cas ce week-end, lui qui a commis des erreurs, lui qui a tout de même parfaitement maîtrisé cette course, des arrêts anticipés pour ne pas être undercuté et la gestion bien sûr de gomme qui était plus vieille par rapport à ses concurrents. Antonelli lui termine troisième, il était piégé en Q3, un peu trop brouillon aussi pendant l'exercice de la course. Contrairement à Russell, il a été piégé justement dans le crash de Verstappen samedi. Erreur de communication avec Bono, il a coupé son effort croyant un double drapeau jaune. Trop d'erreurs sur ce premier relais, des soucis de frein. Il accroche tout de même un podium après son abandon du côté de Barcelone. Et puis pour terminer cette question de George Russell, c'est quand même sa deuxième victoire cette saison après Melbourne, c'est il y a plus de 3 mois, et mine de rien, Russell se relance, il revient à 40 points de son coéquipier Antonelli, il reprend la deuxième place au championnat et fait surtout le plein de confiance au meilleur moment à 3 Grands Prix de la pause. Avant de décrypter ce qui s'est passé en qualification et de se poser les bonnes questions les gars, un mot sur la course de George Russell et les conséquences pour la suite justement de cette saison. Quelle impression il vous a laissé de George Russell?
Ça va lui faire du bien. Déjà, l'impression générale sur George Russell, bon, oui, il a été en gestion de la course, mais je pense pas qu'il était en gestion en mode s'il y a besoin de remettre 4 dixièmes au tour au gars de derrière, je peux me le permettre. Et c'était pas le cas, donc gestion de la course, et ça fait du bien de partir devant. Donc finalement, on en parlait avec Brice hier pour faire l'émission, quand tu pars de la pole, c'est peut-être ça aussi qui a joué, parce que tous ceux qui se sont retrouvés dans le trafic ont eu plus de mal, et je pense notamment au Racing Bull dont on parlera tout à l'heure, qui n'ont pas été dans le trafic sur le début de course, et c'est peut-être aussi ça qui leur a permis en tout cas d'aller accrocher cette 9e et 10e place.
On va revenir, Brice, sur les circonstances justement de cette pole position, mais on a l'impression qu'elle a eu un effet important dans la performance de George Russell et dans la victoire de dimanche.
Oui, parce que au final, la qualification des Ferrari et le rythme des Ferrari, mine de rien, fait un espèce de bloc pendant quelques tours qui permet à George Russell d'avoir une avance et sur Antonelli qui fait un début de course trop agressif et sur Max Verstappen qui a dû se débarrasser en partant P5 de pas mal de monde avant d'arriver potentiellement à essayer de catcher le rythme de Russell. Donc je rejoins Pierrot sur le côté, cette victoire elle fait du bien dans la tête et dans les points. Après, c'est un peu un arbre qui cache une forêt qui s'appelle le rythme. Moi, j'ai une grosse interrogation toujours sur le rythme de George Russell. Grosse interrogation sur la gestion des gommes quand on voit les fins de relais de George Russell. Certes, il a été arrêté plus tôt. Néanmoins, je ne suis pas sûr que justement, dans sa gestion de fin de course, je ne suis pas sûr qu'il ait eu pour autant beaucoup plus de rythme que ça à développer si jamais il était en danger. Max Verstappen, s'il revient à une seconde, je ne sais pas qu'est-ce que Russell peut aller débloquer comme performance pour s'en prémunir. Donc, la victoire est là, tant mieux. Il reprend 10 points sur Antonelli, il repasse Hamilton, tant mieux. Néanmoins, j'ai toujours cette interrogation.
En fait, c'est dur. Il est dur à juger le rythme de George Russell sur ce dimanche parce que puisqu'ils ont anticipé chacun des arrêts afin de se prémunir d'un undercut entre guillemets de Red Bull ou même de Ferrari sur le premier relais, du coup il y a un décalage, on va dire, d'ancienneté sur les pneumatiques très important, notamment vis-à-vis d'Andrea Kimi Antonelli qui lui a fait des relais un petit peu plus longs. Et à la fin, tu dis est-ce que justement Verstappen aurait pu reprendre Russell avec un ou deux tours de plus. Il faut dire que Verstappen était aussi menacé par Andrea Kimi Antonelli. Donc quelque part, c'est vrai qu'il est dur, à juger ce rythme. Par contre, la maîtrise, il faut le dire, est peut-être impressionnante. Ah, impressionnante, je ne sais pas, c'est non. Une question
la
même
maîtrise
que
de George Russell. Ouais. Avec les erreurs qu'il fait en tête de la course, sachant qu'il est censé gérer la course, partir un peu au large au virage 1, au virage 3. Moi, le seul moment où je me rappelle d'un leader qui était dans cette position-là et qui gérait la course, c'était Norris à Singapour. Ouais. Mais c'est à peu près tout. Mais ça arrive jamais généralement qu'un leader fasse plusieurs erreurs au sein du même Grand Prix. Et j'ai l'impression même que depuis le début de l'année, quand Russell était en tête sur les Grands Prix où il n'avait pas trop de problèmes, il y avait des erreurs qui partaient. Au Canada, le nombre de fois où il tire tout droit à l'épingle, alors il n'est pas tout seul, hein, Antonelli aussi, mais Antonelli, mais c'est sa deuxième saison.
Il se bat aussi avec Antonelli au Canada. Oui, quand ça arrive, là, il est tout seul.
Non, mais en plus, mais même quand il se bat. Même quand il se bat, il y a une ou deux fois, et Antonelli aussi part un petit peu au large au Canada. Bon, encore une fois, t'as l'arme de destruction massive en Formule 1. ce genre d'erreur, c'est pas censé arriver, quoi.
Mm-hmm. Les deux victoires de Russell sont les deux victoires les plus étriquées de la saison. C'est celles qui ont le moins d'écart avec le second. Encore une fois, le but n'est pas de minimiser, le but est plus de dire, je pense sincèrement que même sur un Grand Prix où Russell gagne, ça ne veut pas forcément dire qu'il a retrouvé le rythme qui fait que à position de grille égale, il se bat avec Antonelli. Je pense que sincèrement, quand on regarde les temps autour réalisés par chacun à même stade de pneumatique, alors certes il y avait des écarts de plein d'essence, mais Antonelli est toujours devant à partir du 15e tour.
Après ceci dit, en termes de rythme, moi je veux juste qu'on pondère un petit peu en disant l'écart n'est pas abyssal non plus, comme ça peut laisser penser.
Il y a 3 dixièmes de pneus et il y a 1 dixième et demi de performance.
Dixième et demi de performance, c'est pas énormissime, ça reste correct. Mais quoi qu'il arrive, George Russell, il est derrière en termes de rythme. Maintenant, il y a toutes les circonstances de course qui font qu'on a l'impression qu'il y avait eu une différence de rythme absolue énorme. Alors que non, en vrai, ça va, ça s'explique.
Mais ce qui est inquiétant, c'est que les débuts de week-end, il lui met 5 dixièmes dans la tête, hein, Antonelli. Tu vois, et
ça fait un peu le yo-yo quand même, parce que il y a sur les deux premières séances d'essais libres, il est quand même archi dominé par Antonelli.
Non, mais
il
se réveille régulièrement, je veux dire.
Oui, bien sûr.
Mais régulièrement, t'as cette sensation que Russell, il installe plus facilement son week-end, et Antonelli, t'as un peu cette sensation karting où on teste un peu tout, on se met dehors, on voit, et à la fin, on aligne un rythme. Enfin, tu vois, les freinages d'Antonelli, Russell est-il capable
bien
de
sûr.
Le faire? Je me pose la question.
Non, t'as raison.
On met autant de vitesse dans le virage, je sais pas s'il est capable de le faire. Pourtant, cette Mercedes est capable de l'encaisser. Et au final, ça l'amène à être plus vite. Donc,
sachant qu'Antonelli avait des problèmes de frein, il n'était pas confiant sur les freins hier.
Exactement.
Imagine.
En plus.
Mais on peut quand même souligner une chose, les gars, c'est que quand tu vois le début du week-end de Mercedes, de Antonelli, de Russell, tu peux être inquiet pour le Britannique en disant mince, il va encore avoir ce déficit vis-à-vis d'Antonelli. Comment il va s'en sortir? Il y a ce coup de grâce. Ou ce coup de génie, ce coup de chance, ce coup de réussite, on va en parler dans quelques instants, qui se passe en qualification. Et c'est un game changer sur ce week-end. Regardez les propos, notamment, on va dire, de George Russell sur l'aspect résilient. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut quand même insister au sujet du pilote de Mercedes. Il dit « Les courses difficiles vous mettent à l'épreuve psychologiquement et lors des derniers week-ends, c'était important pour moi de me rappeler que je pouvais le faire. J'ai montré un très bon rythme tout le week-end sur un circuit qui ne me convient pas forcément. C'est important aussi de le rappeler. Et je suis impatient d'aller à Silverstone dès la semaine prochaine. » Toto Wolff lui était l'invité du débrief de Sky Sports et c'est ce qu'il a dit par rapport à le côté résilient de George Russell. Il dit « Depuis la Q3 hier, George a réalisé une performance parfaite. Il était rapide, a bien géré ses pneus, a gardé son sang-froid. Je suis vraiment content pour lui. Il sait qu'il peut aller vite et parfois il faut juste que tout se mette en place. Piloter, tout simplement. » Comme il lui a dit d'ailleurs dans la radio en Q2, ce n'est jamais bon quand les pilotes réfléchissent trop. Voilà de quoi qui pourrait aider en tout cas notre ami George Russell.
Vous n'avez pas ce sentiment quand même que gagner avec si peu d'avance sur Max Verstappen et si peu d'avance sur Antonelli, quand Antonelli en fait fait un début de course très brouillon, les deux VSC bizarrement se mettent à le piéger entre guillemets. Bon, Russell a pas accentué d'avance grâce au VSC, mais Antonelli aurait pu faire de bien meilleurs choix à ce moment-là. Enfin, bien meilleurs choix. Il a pas eu de chance par rapport à ça, et que en plus de ça on le laisse en piste plus longtemps et il perd un temps phénoménal par rapport à Russell sur ce moment où on le laisse en piste. Moi j'ai quand même plus l'impression que c'est Antonelli qui a perdu la course par rapport au rythme qu'il avait que Russell qui l'a gagné. Et effectivement, Russell aurait pu certainement développer un peu plus de rythme si c'était son coéquipier sur lequel il devait se défendre. Quand tu vois en fait à quel point Antonelli a enchaîné erreur ou problème sur problème, que ce soit de sa faute ou pas, et qu'il termine à 2 secondes, j'ai un doute. Voilà, c'est plus ça que je veux dire. J'ai un doute et je me dis la maîtrise, c'est pas le terme que j'emploierais sur cette victoire.
Là où t'as raison, c'est qu'en effet, chez Mercedes, on a décidé de splitter les stratégies avec George Russell, donc qui anticipait pour se mettre à l'abri d'un undercut. On rappelle, undercut, c'est quand le pilote entre guillemets qui vous suit anticipe son arrêt, s'arrête un tour avant vous pour grâce aux températures, grâce à des pneus neufs, permet de faire la différence.
Il marchait peu
lorsque vous passez au stand.
C'était pas incroyable.
Il marchait peu.
Non, très très peu, ouais, exactement. Peut-être on était focalisé sur Ferrari aussi.
Non, mais il y avait en fait là. Le, les pneus 9-9 sur les deux premiers tours avaient une surchauffe de surface qui je pense ne permettait pas de faire des critical laps comme ils aiment faire, et on a vu beaucoup d'erreurs au T3 sur sortie de pneus 9. Je pense qu'effectivement ils étaient un peu difficiles à gérer au début et ça a peut-être empêché les undercuts.
Plus de 50 degrés aussi de température de piste, donc on a décidé chez Mercedes de splitter les stratégies. Russell, donc on le prémunisait entre guillemets de l'undercut, et on a décidé du côté d'Antonelli d'allonger justement ses relais pour lui offrir un bénéfice, un capital pneumatique plus important, notamment en fin de relais, pour lui permettre de faire la différence. En effet, si on avait arrêté Antonelli un petit peu plus tôt, est-ce qu'il aurait pu venir embêter George Russell? Ça, c'est une question qui restera.
C'est la même question qu'on peut poser pour Max Verstappen, etc. On ne saura jamais. Mais effectivement, ça aurait pu nous faire une belle bataille. Mais il y a 71 tours sur le Grand Prix d'Autriche, pas un de plus. Pour revenir sur la maîtrise de George Russell, je pense que c'est celui qui a... S'il a gagné, c'est celui qui a le mieux maîtrisé en tout cas sa course vis-à-vis des autres. Antonelli qui fait trop d'erreurs au début, Verstappen qui reste bloqué face à Lewis Hamilton sur le début de course, etc. Bon bah oui, George Russell a justement profité de sa pole position, a profité du fait qu'on lui dise ouais c'est chaud, Verstappen risque de passer Hamilton, donc c'est le moment de s'envoler, de construire un matelas confortable. Là il y a une maîtrise. Sur le reste effectivement, bon bah oui, quand on voit si on se focalise que sur les rythmes de course, bon bah oui effectivement c'est pas celui qui était devant, c'est pas celui. Encore une fois, faire un Grand Prix, c'est pas juste du rythme de course, c'est aussi un petit peu de chance par-ci par-là.
En fait, c'est lui qui a les lap times les plus
constants.
Mmh. Quand tu prends Antonelli, par exemple, il a des moments où effectivement c'est lent, mais par contre, il est beaucoup plus rapide que Russell sur ses meilleurs tours. Ouais. Et donc vraiment, il est dans une fenêtre de régularité qui est celle qui l'a amené à la victoire. Il y en a un qui était aussi régulier, c'est Charles Leclerc, mais plus haut.
J'ai
regardé, c'était le seul qui était aussi régulier que, ouais, top, que
régulier dans,
que Russell, mais
dans de la non-performance
avec des temps pas, enfin c'est pas les mêmes quoi.
On va en parler à l'eau la Scuderia, on revient c'est-à-dire Pierrot, on va revenir sur justement ce qui a été l'un des actes fondateurs de cette victoire de George Russell, c'est l'exercice de la qualification, c'est la Q3, George Russell qui réalise le meilleur temps alors qu'on est en procédure de drapeau jaune. Explique-nous pourquoi Russell n'a pas été sanctionné justement dans le cadre de cette Q3.
Bah écoute, déjà pour replacer un petit peu le contexte, on sait que Max Verstappen perd la voiture dans l'avant-dernier virage, qui a un droite très très rapide. Il sort, il tape le mur de pneus loin, une fois avoir traversé tout le bac à gravier.
Souvenez-vous du loin, parce que c'est son argumentaire principal. C'est vraiment la raison de son argument principal. Il y a quoi, il y a 15 mètres.
Enfin. 15 mètres, non mais ça va pas.
Ne commençons pas les débats, les gars.
Il
essaie de vous influencer, je vous le dis tout de suite.
Est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Je vais finir. Forcément, ça déclenche un drapeau jaune, évidemment. D'abord, double drapeau jaune qui met fin théoriquement à toutes les tentatives en cours. Antonelli, par exemple, prend le double drapeau jaune, mais son coéquipier George Russell arrive un petit peu plus tard pendant sa tentative et voit un simple drapeau jaune je l'avais regardé justement sur le onboard avec une couleur un peu différente. T'as l'impression que c'est un drapeau vert.
Exactement.
Limite. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, mais lui il arrive avec un simple drapeau jaune et du coup ça change absolument tout. Il lève le pied de l'accélérateur, perd de la vitesse justement sur le drapeau signalé par le panneau lumineux que vous voyez là, ça va, j'ai réussi à choper l'image jaune, donc ça fait plaisir. Donc il se laisse rouler en décélérant jusqu'au point de corde avant de remettre les gaz. Donc là on voit qu'au point de corde en fait on voit encore un petit peu la fumée, donc il sait où est parti Verstappen, on voit les traces de Verstappen, donc on est nickel. Et puis effectivement il remet les gaz et puis il prend la pole position pour 2 10e. Comme le dirait Brice, c'est plus facile quand on freine pas. Hein, voilà. Encore une fois,
il a décéléré.
Pour comprendre un petit peu tout ça, en fait, faut aller voir à l'annexe H du code sportif international de la FIA qui dit qu'un double drapeau jaune est nécessaire lorsque un danger obstrue totalement ou partiellement la piste et où des commissaires travaillent sur ou à côté de la piste. Durant les essais libres et qualificatifs, il doit être évident que le pilote n'a pas tenté d'enregistrer un temps au tour significatif. Cela signifie que le pilote doit abandonner le tour. C'est écrit noir sur blanc. En plus de ça, en français, dans le code sportif international, et ça ne concerne pas que la Formule 1, mais toutes les compétitions qui se déroulent sur circuit notamment. Ça a été le cas de Antonelli et des autres en général quand ils se sont pris, entre guillemets, le double drapeau jaune. Or, comme on le voit sur l'image, Max Verstappen se trouve au fond du bac. Il se trouve pas à 15 mètres, il se trouve un petit peu plus loin quand même. Et les commissaires sont pas en train d'intervenir. et les commissaires sont pas en train d'intervenir, personne s'est fait mal, donc on n'a pas forcément besoin non plus de brandir un drapeau rouge qui est synonyme quand même de gravité où il faut absolument intervenir parce que là il faut envoyer les ambulances, ce genre de choses, c'était pas le cas pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a effectivement pas de commissaire.
On a envoyé la medical car quand même. Hein,
oui, mais après. Oui, mais après, effectivement, on est d'accord
donc
là-dessus.
On attend qu'ils finissent la qualif pour savoir si ça va, quoi. Finalement.
Non, mais parce que ça, en fait, ça n'a pas allumé, ça n'a pas allumé le comment ça s'appelle, l'accéléromètre qu'ils ont dans la voiture.
En tout cas, pas assez visiblement.
Pas assez visiblement.
C'est les boîtes et le genou. Mais c'est pas.
Non, mais il a touché ses genoux. Oh là là. Bon, c'est, alors ça fait pas, ça fait mal, hein, pour l'avoir vécu une fois, ça c'est pas cool. Donc je reprends. Il y a donc pas nécessité non plus d'agiter un double drapeau jaune parce que il y a rien qui obstrue la piste. Il y a pas de commissaire qui intervienne sur les lieux de l'accident. Il y a un drapeau jaune qui suffit, qui est simple, et donc du coup Russell doit juste lâcher un petit peu et il peut tout à fait finir son tour et mettre un temps au tour en banque. À savoir s'il a suffisamment lâché ou non, ça c'est à l'appréciation des commissaires sportifs et du directeur de course, comme un arbitre qui siffle une faute ou non au foot. Donc ça c'est aussi à nous de le prendre en considération. On a eu des cas précédents, Sainz en 2021 au Qatar qui lâche pour 1,5 dixième, un dixième et demi, et prend la... Alors il prend pas la pole position parce que c'était Lewis Hamilton. Bref, mais c'est accordé au commissaire qu'il peut rentrer son temps autour et il n'y a pas de souci là-dessus. Il a fait suffisamment l'effort de ralentir à travers les données de la voiture. Et en revanche, Max Verstappen, cas inverse, Mexico en 2019, il n'avait pas lâché du tout, au contraire, passant pleine balle devant l'épave de Valtteri Bottas qui venait de se prendre un carton et pas des moindres. Donc du coup, lui n'a pas fait l'effort de ralentir et la pole lui avait été retirée au bénéfice de Charles Leclerc. Alors, Russell prend la pole pour 2 dixièmes tout de même, hein, même en ayant lâché, le Britannique a tout simplement maximisé son passage de drapeau jaune. C'est quelque chose aussi avec lesquels il faut jouer, comme on maximise un slowdown sur iRacing pour les simracers qui nous regardent aujourd'hui. Donc voilà, pour ça bravo. Maintenant, prendre la pole malgré un drapeau jaune, ça fait quand même tâche, faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et moi, ça fait depuis Abu Dhabi 2021 que je le répète, il faut dans ces cas, dans ces circonstances-là, avoir un drapeau jaune de compétition comme on l'a en NASCAR pour mettre
rouge, je veux dire.
Non, jaune. Drapeau jaune de compétition parce que drapeau rouge, c'est vraiment très très marqué. Drapeau jaune de compétition, c'est le cas en NASCAR. Pour la fin des segments, on agite, alors ils appellent ça un drapeau jaune de compétition, mais ils neutralisent la course pour dire on l'arrête sportivement parlant. Pour moi, ça, ce serait intéressant pour justement être dans l'intérêt du spectacle, éviter les litiges de drapeau jaune ou les relances un petit peu trop à l'arrache.
Ce que tu veux dire par là, et merci beaucoup Pierrot pour ce décryptage, pour que tout
pas
le monde...
Pas facile avec un gars qui...
C'est vrai.
Ah mais je suis pas d'accord.
Dissipé. Je te donne la parole tout de suite, mais pour revenir sur ce drapeau jaune de compétition, ça voudrait dire qu'à un moment où Verstappen sort, on arrête le décompte, on suspend la séance, le temps de retirer cette voiture et de relancer.
Et si on peut repartir, on repart. Si on peut pas repartir, on repart pas. Mais au moins, je pense que tout le monde pourrait s'y retrouver à la fois sportivement, parce que du coup, ça permet aux autres qui ont pas rentré leur tour de pouvoir refaire un tour. Et si jamais il n'y a pas assez de temps, et c'est comme ça, c'est la vie.
Ok. On a des explications. Donc, et intéressant, c'est qu'on est dans les clous en termes de règlement. Elle est donc tout à fait valable. Cette position, mais tu l'as dit, ça pose une question, on va dire, en termes d'esprit autour de ce règlement, et c'est là-dessus que t'es pas vraiment d'accord, Brice.
Ouais, c'est pour ça en fait que, tu peux argumenter tant que tu veux avec le règlement. Au final, George Russell a fait une Max Verstappen, c'est-à-dire exploiter les règlements pour le montrer à quel point il est débile.
Et bravo à lui,
tu vois. Enfin,
ouais,
parce que si ça avait été Verstappen, on aurait dit tu exploites chaque truc du règlement. Et en vrai, il a eu raison de le faire, mais ça met quand même en exergue un truc, c'est que lâcher d'un dixième sous drapeau jaune, alors
en passant à 200, je sais plus combien, 200 km/h, est-ce que c'est très safe?
T'es même plus haut. Parce que tu lâches pas tant que ça dans ce premier droit. Et lâcher d'un dixième, à quel moment la FIA peut valider un tour en expliquant le drapeau jaune, du coup, il est suffisant et c'est safe. À un dixième, tu n'as pas un écart de maîtrise de ta monoplace suffisant pour permettre de dire, en fait, je vais pas aller faire un suraccident sur Max Verstappen si jamais il y a un truc qui va pas. Tu
en vois. Particulier dans l'exercice de la qualification, où justement, et encore plus sur le dernier run de Q3, où t'es à fond. Pour me faire l'avocat du diable... parce que je reste quand même d'accord avec Brice, mais pour me faire l'avocat du diable, en l'état, sur cette situation-là, Verstappen est donc contre les pneus. A priori, sa voiture reste relativement intacte côté droit. Il n'y a pas de commissaire, il est relativement loin, il y a un bac à gravier avant. Même si George Russell perd la voiture, Verstappen reste en sécurité, entre guillemets, dans sa propre voiture. encore une fois, normalement, il dit oui, à Moquet, tout va bien, etc. à la radio, s'il a eu le temps, parce qu'il y a quand même un delta de temps entre le moment où il tape et Russell où il arrive. Donc, globalement, on reste dans des conditions pas optimales de sécurité, mais dans des conditions acceptables de sécurité prévues par le règlement. Donc voilà, maintenant, effectivement, dans l'esprit, on peut faire mieux.
Moi, c'est plus l'image que ça renvoie.
Je suis d'accord.
C'est, en fait, c'est dire aux pilotes, bah, tu peux faire ça.
Ouais, je suis d'accord.
Et déjà, j'ai un problème avec l'esprit de faire une pole position avec un drapeau jaune sur la piste.
J'ai une question. Si jamais on a, par exemple, même virage, mais une voiture arrêtée sur l'intérieur du virage et qu'il y a juste un simple drapeau jaune, est-ce que... Non, mais pas sur la piste ni rien, tu vois, mais vraiment sur le bas-côté, etc., parce que problème mécanique, il n'a pas pu rejoindre les stands, etc. Est-ce que, du coup, c'est acceptable ou pas, tu vois? Parce que, du coup, en vrai, il n'y a aucun moyen que l'autre, il se mette dans la voiture qui est à droite, tu vois.
Mais c'est une question... Encore une fois, tu l'as dit, c'est une question d'appréciation.
C'est une question d'appréciation.
Et l'appréciation, pour moi, de lâcher un dixième sous drapeau jaune quand une voiture n'est pas est dans une situation où... t'es dans une trajectoire de sortie, en fait. Si tu te sors à ce moment-là, en fait, la voiture de Verstappen, c'est ta copine dans deux secondes. Hein. Donc, j'ai plus un problème avec ça, par exemple, qu'avec un double drapeau jaune qu'on aurait pu mettre sur la voiture de Sainz, qui était complètement hors trajectoire, en pleine ligne droite. Ouais. Tu vois, il y a un esprit qui me gêne avec le fait de dire, bah, tu peux dire au pilote de juste lâcher, ce qui veut concrètement dire, en fait, lâcher un peu la pédale. Parce qu'ils sont tellement flat out que si tu fais ça, le mini-secteur, il sera jaune.
Ouais, mais c'est ça.
Donc, en fait, il n'y a aucune relâche de l'effort réel, en fait. Ils vont perdre quelques centièmes, voire un dixième, comme tu l'as dit, et c'est tout. Donc, est-ce que c'est réellement ralentir son drapeau jaune? Je pense qu'il faudrait qu'il y ait la notion de significatif qui rentre. Si la VSC, on dit que c'est 40%, bah peut-être qu'il faudrait instaurer une règle de 40% sur le mini-secteur en question. Parce que là, le drapeau jaune, il dure quoi? Il dure 20 mètres. Le drapeau vert est juste derrière.
Non, mais c'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'un simple... Alors, tu y as répondu, je trouve, avec... t'étais brillant sur ta réponse, Pierrot. Mais dans cette notion d'esprit, c'est ce simple drapeau jaune dans ce virage numéro 10. Est-ce que c'était suffisant par rapport... Alors, tu l'as dit, des risques peut-être de suraccident qui ne sont pas aussi élevés que s'il était revenu sur la piste. Mais sait-on jamais sur
bien
ce
sûr,
tracé
non,
spécifiquement en effet sortir au virage numéro 10 dans l'exercice de la qualif et dans ton dernier run de Q3, c'est pas non plus impossible.
Mais moi la voiture elle est à moitié sur la piste, pour moi c'est drapeau rouge. Mais dans ma tête
normalement c'est double drapeau jaune.
Oui, mais dans le règlement.
Bien sûr.
Tu te souviens quand on met pas drapeau rouge sur la voiture de Russell qui est en tonneau en Australie l'année dernière?
Alors qu'il l'appelle Red flag.
Bah ouais,
il y a Stroll qui arrive derrière. Merde.
Concrètement, il y a un truc qui se passe. La FIA aura du sang sur les mains sur ce genre de situation.
Bien sûr, mais là-dessus, on est d'accord.
Et enfin, si l'absurdité sportive de ce qu'on a vu samedi peut aider à régler des problèmes sécuritaires dans le futur, je signe tout de suite. D'accord. Parce qu'en attendant, c'est quoi l'intérêt d'instaurer après l'accident de Jules Bianchi une VSC qui fait chier tout le monde, qui sert à rien comparé à une safety car classique? Et ne pas avoir des situations de suraccident potentiel comme celle-ci qui sont réglées. Au final, si tu mets quoi? Tu mets double drapeau jaune s'il pleut ou tu mets juste drapeau jaune? Est-ce que la pluie influence la décision? Aujourd'hui, un drapeau jaune, si tu relasses que de 2 dixièmes, bah, je suis désolé, il ne sert à rien ton drapeau jaune, sécuritairement parlant.
Pour vous donner quelques datas, il a ralenti de 25 km/h par rapport à son précédent run, on va dire en étant à fond, George Russell. Et ce qu'il faut dire, moi, c'est vrai que ce qui m'a un petit peu. Alors, il a levé d'ailleurs 25 mètres.
Il fait de la recharge en plus.
Exactement.
C'est
ce qui s'est passé d'ailleurs.
C'est
ce que tu vois. Je vous invite à aller voir ça d'ailleurs. C'est ainsi qu'on va conclure le sujet George Russell et la qualif. Mais je vous invite à aller voir. Vous savez l'image fantôme sur la qualification entre justement le tour de Leclerc et le tour de George Russell qui étaient les deux meilleurs temps de cette qualif. En fait, tu te rends compte que non seulement George Russell lève dans ce virage numéro 10, pas tant que ça parce qu'en fait Leclerc ne refait pas forcément son retard, mais qu'au moment où il rappuie sur la pédale à la sortie du 10, il a régénéré, donc il peut déployer un petit peu plus, et donc là, franchement, c'est
tchao. Mais ce qui veut donc dire que...
C'est ça qui est peut-être un peu plus problématique.
La règle étant assez débile pour dire que Charles Leclerc passant moins vite que George Russell, sous prétexte qu'il n'a pas lâché, serait sanctionné, alors que George Russell passant plus vite en ayant lâché... n'est pas sanctionné.
Mais c'est tout le problème de la réglementation.
C'est pas la vitesse de passage le problème,
non,
c'est la comparaison du mini-secteur.
C'est tout le problème de la réglementation de cette année, c'est que en fait tu passes plus vite en roulant moins vite. Ça n'a aucun sens parce que forcément tu recharges ceci cela, donc du coup
ça me rappelle les déclarations de Leclerc post-qualif du Japon en disant mais en fait faut que je roule pas vite pour aller vite.
C'est exactement ça. Donc c'est l'enfer, et effectivement là moi je suis d'accord sur le fait que sur ce genre, en particulier sur la qualif, il faut une interruption. Comme ça, il n'y a plus de débat. La voiture, elle est out. Tu peux rentrer au stand, tu peux redéclencher le chrono et tout. Je trouve que c'est beaucoup, c'est dans l'intérêt sportif, dans l'intérêt des spectateurs et dans l'intérêt de la sécurité. Donc voilà, avoir un simple drapeau jaune, même un double drapeau jaune, faudrait que ce soit systématique de, bah, en fait, vous n'avez pas le droit d'améliorer, point, vous avortez votre tentative.
Un petit mot, les gars, avant de refermer ce sujet Mercedes très rapidement sur André Hakimi Antonelli. Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec un rythme qui était assez impressionnant, avec des erreurs en début de course. On avait dit qu'il avait une réussite maximale. On l'avait dit avant, eh bien, la Catalogne et Barcelone, on a l'impression que cette réussite, elle le fuit un petit peu, hein, notamment encore ce week-end. Et on l'a vu, il s'arrête juste avant eh bien, le déploiement des deux virtual safety cars. Il y a l'incompréhension, bien sûr, en Q3. Il y a ses erreurs. Il dit, d'ailleurs, à propos de ses erreurs, André Hakimi Antonelli, j'étais un peu trop excité dans les premiers tours, j'ai mal piloté, j'ai fait trop d'erreurs. Et dans le premier relais en médium, j'ai perdu trop 4 secondes avec des erreurs. J'avais des soucis de frein. Après les changements de pneus, je suis reparti de zéro. Le rythme était très rapide et solide. C'est juste dommage que j'ai commencé à être rapide un petit peu trop tard.
Bah, du coup terminer 2 secondes 5 de la tête,
bah voilà.
C'est pas mal.
C'est peut-être
frustrant.
Bah oui et non, parce que enfin ce genre de résultat, enfin t'as de la malchance et tu termines 3 à 2 secondes de ton coéquipier qui a pas eu de malchance et qui a exploité toutes les failles du règlement possible. Sincèrement, je pense que c'est plus un week-end qui donne confiance. Si dans tes mauvais moments t'es comme ça.
C'est vrai qu'un mauvais résultat, c'est P3, c'est quand même pas trop mal.
Mais P3, il y a 2 secondes.
Non, mais t'as raison. Mais tout lui souriait avant Barcelone. Là, quand tu vois l'accumulation des petites choses, on parlait tout à l'heure de la qualification de cette Q3. Quand il passe, il a le double yellow.
Ouais,
Il s'appelle Bono lui dit yellow. Il pense que c'est double yellow. Donc c'est pour ça qu'il arrête son effort. Finalement, il voit que c'est juste un simple drapeau jaune. Enfin, il y a beaucoup de circonstances. Pareil, la sortie de la Virtual Safety Car sur l'abandon de Sainz. C'est au moment où il rentre dans la pit lane que hop, s'affiche.
Mais ça, c'est du circonstanciel.
Mais oui, je suis d'accord.
Si tout s'est cumulé comme ça et qu'il termine à 2 secondes de la tête, encore
en
une fois, c'est peut-être l'un des week-ends qui va, à l'inverse, du coup, m'impressionner le plus de la part d'Antonelli.
Non, mais si c'est ça, c'est down sur la saison.
L'autre, il est mort.
C'est la question qu'on se posait il y a 2 ou 3 semaines quand on disait on a hâte de voir Antonelli dans une période un peu moins faste, avec un peu moins de réussite. Elle est là.
Et l'année dernière, c'est 11e à Imola en période pas faste.
Et puis en Autriche, ça se finit en crash.
Voilà.
Voilà.
Tout va bien.
Tout va bien, en fait.
encore une fois, il faut voir à quel point ce down dure. Mais s'il a perdu des points par rapport à Russell avec toutes ses affaires, pas tant que ça. Tu prends les 4 derniers Grands Prix, au final, il a stabilisé son écart de points. Hier, au final, il y a un changement de deuxième au championnat. C'est tout bénef. Il a le même écart avec le deuxième qu'il avait avant le week-end et il a fait un mauvais week-end. Bah, très bien, moi je signe.
On en veut d'autres, des mauvais week-ends comme ça. Deuxième enseignement, les gars, on referme la page Mercedes, George Russell, André Hakimi Antonelli et les qualifications, et bien évidemment et bien cet imbroglio. On ouvre la page de Red Bull. De quoi convaincre Max Verstappen, ses nouvelles performances? C'est la question qu'on va se poser parce qu'il y a eu un vrai bond en avant, on a l'impression en tout cas de Red Bull dans ce week-end. On le rappelle déjà, élément de contexte, c'est important, la silly season qui approche, les premières rumeurs et notamment la rumeur d'un Max Verstappen qui irait pourquoi pas chez McLaren, début de saison compliqué pour Red Bull, qui pourrait permettre justement aux Néerlandais d'activer des clauses de sortie à mi-saison. Et en F1, avec l'été, se scellent eh bien, les premiers transferts. Si Mercedes a confirmé Russell et Antonelli pour 2027, la dernière rumeur évoque un départ donc vers McLaren, s'il décidait bien évidemment d'activer ses clauses de sortie. L'autre élément de contexte, c'est Red Bull, c'est la duo. Est-ce que justement l'écurie autrichienne a été piégée par la duo? On sait que eh bien, Red Bull disposerait, selon les instances, du meilleur moteur thermique et donc n'aurait pas reçu de bonus de développement sur l'ensemble de l'unité de puissance, c'est-à-dire thermique et bien sûr électrique. Et puis l'autre élément de contexte, le dernier, c'est qu'on a eu en Autriche presque une nouvelle voiture du côté de chez Red Bull. Le package majeur de cette saison est arrivé, nouveau poton, nouveau capot moteur pour corriger les problèmes de fiabilité, nouveau fond plat, barge board, suspension arrière, échappement, aileron arrière pour améliorer l'équilibre aérodynamique, et enfin la perte de poids, les 12 kilos en trop qui avaient été perçus sur la balance, en tout cas à Melbourne pour la première course, aurait été perdue avec les améliorations apportées à Miami et donc apportées en Autriche. Et à l'arrivée, il y a eu de la performance, il y a eu du rythme, notamment pour Verstappen, qui si la compréhension et la fenêtre de performance a été assez dure à trouver lors des essais, avec des pilotes notamment pas très à l'aise dans la voiture, Verstappen a fait un vrai bond en avant en qualification. Super rythme de course malgré des problèmes techniques. Et la question que j'ai envie de vous poser, les gars, est-ce que vous décelez à travers cette performance un retour en avant de la part de Red Bull, qui tient quand même sa première course référence dans cette saison? Et même la question un petit peu provoque, est-ce qu'il aurait pu gagner Max Verstappen?
en vrai. Celle-là, elle est pas provoque, oui.
T'es sûr? T'es vraiment sûr?
Lui, moi, j'ai un quelques tours de plus, quoi, mais...
Non, à la il lui faut deux tractopelles rouges en moins de, sur la grille.
Par exemple.
Mais
bah, faut pas qu'il la plante le samedi en qualif.
Oui, parce qu'au final, il avait quand même le rythme pour aller faire, bah, je pense, la première
ligne. Il était dans le mix pour la pole, hein, donc ça, c'est sûr. Mais non, écoute, les améliorations vont a priori dans le bon sens, même s'il paraît en free practice que c'était un petit peu plus difficile pour aller débloquer de la perf. Ceci étant dit, Verstappen, comme beaucoup finalement ce week-end et particulièrement dimanche, ont eu des problèmes de surchauffe, qui ont attaqué plusieurs différentes parties de la voiture, si on peut dire ça comme ça. Il s'est retrouvé avec une voiture qui tirait un peu vers la gauche ou la droite en fonction de comment étaient les freins. Donc ça, c'est un problème de glaçage, c'est-à-dire que les freins ont trop surchauffé ou sont sortis des températures de maximales possibles, entre guillemets. Donc il y a eu ça, mais globalement, il y a quand même du mieux. J'ai juste une vraie interrogation sur le fait que, comme là, on était sur des conditions hyper chaudes, est-ce que ça va se confirmer sur le reste de la saison ou est-ce que le package fonctionne juste très bien sur des conditions très très chaudes comme ça? Donc tu vois, je suis en mode, bon ok, ça fonctionne. Maintenant la vraie question, c'est est-ce que ça fonctionne partout?
J'ai une petite réponse, je donne la parole tout de suite Brice. On a une réponse de Isaac Adjar, déclaration très intéressante, c'est sur Canal Plus à l'arrivée de cette course justement, où tu vas voir, il y a de l'optimisme sur ce nouveau package. Il dit, on était la deuxième meilleure voiture de la grille, mais on était plus rapide que les McLaren et les Ferrari. On n'est pas encore au niveau des Mercedes, mais avec Max dans la voiture, ça joue la victoire. À Silverstone, je pense que ça va être assez similaire en performance. J'espère que les températures ne seront pas aussi extrêmes, car notre voiture n'aime pas ça. S'il fait plus frais, on pourrait jouer devant.
Bon, bah écoute, hâte de voir Silverstone. Hein. P1, P2 pour Red Bull. Ouais, rendez-vous est pris.
Là, en fait, ils ont amélioré la chose, le problème majeur qui était le passage dans les virages de cette Red Bull qui est, où il n'y avait absolument pas d'avant, en fait. Ouais, ils n'arrivaient absolument pas à la faire tenir. Là, c'est réglé. Alors, c'est quand même aussi, je pense, accentué par le Red Bull Ring, parce que s'ils avaient eu la voiture sans le package d'évolution, avec les virages qu'il y a à prendre et justement le besoin que tu as d'inscrire la voiture, t'aurais été en grande, grande souffrance. Donc là, effectivement, si le moteur qui est soi-disant si bon est magnifié par le fait que la voiture commence à tourner correctement, un Max Verstappen peut quand même faire quelque chose avec cette voiture. Maintenant, Silverstone, il y a quand même cette question de déploiement qui va rentrer en compte à Silverstone. Ça va être le temple du on va voir à quel point la réglementation fait du mal là-bas.
Pour le coup, ouais.
Parce qu'il n'y a pas assez d'endroits de recharge. Verstappen prédit que ça va être flat out partout.
Bah, ça ne m'étonnerait même pas. Hein, parce...
on va voir quand même des voitures en chien un petit peu. Et Red Bull n'a pas été la meilleure sur son déploiement depuis le début de saison. Donc il y a aussi ces paramètres-là à prendre en compte. Globalement, on commence à avoir Hamilton qui se positionne avec une Ferrari qui est bien. Et puis à Miami, c'était McLaren qui se positionne avec une voiture qui amène un package qui marche. Globalement, tout le monde amène des packages qui marchent, mais pour le moment, la seule voiture qui sainement est capable en fait de rester devant, c'est Mercedes. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de ce qu'a fait Max Verstappen pour lui. Néanmoins, j'ai absolument pas la certitude que la voiture est capable de reproduire ça sur des typologies de tracés différents, avec des températures différentes. Il n'y en a qu'une qui est capable de faire ça à l'heure actuelle. Donc, bon en avant pour Red Bull, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Si McLaren retrouve de la performance, est-ce que Red Bull a réellement un package plus performant? Je pense que les trois équipes ont des packages qui sont performants circonstanciellement encore aujourd'hui, mais structurellement il manque encore quelque chose.
Bah en fait, là,
à voir, mais
théoriquement, à Silverstone, normalement Ferrari devrait revenir sur le devant de la scène, parce que la typologie de circuit entre Barcelone et Silverstone, ça reste relativement proche. Il y a des grands virages rapides, etc.
On n'est pas censé être bonne là-dessus, mais...
On va avoir... Bah oui, mais regarde à Barcelone.
Ah oui, mais j'ai pas compris, hein.
Donc,
j'ai pas compris.
Hein. Ils ont eu quand même du rythme, donc... Enfin, en tout cas,
McLaren est censé être meilleur là-dedans, mais...
Bah oui, mais le problème, c'est que McLaren n'a pas amené d'évolution depuis Miami, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Les gros packages, je sais plus qui me disait ça, mais a priori, c'est pas avant 4-5 mois. C'est toi qui me disais ça hier.
Non, ils ont 4-5 mois de retard.
Ils ont 4-5 mois de retard.
C'est Lando Norris qui a dit qu'il avait 4-5 mois de retard.
Donc, ça va pas arriver tout de suite. Et quand tu vois effectivement les Ferrari se battre avec les McLaren et que forcément par déduction tu te retrouves avec une Red Bull qui joue plutôt devant, c'est assez intéressant de voir à quel point la Red Bull était proche de la Mercedes Mais encore une fois, bah, c'est circonstanciel. Et le test de Silverstone, pour le coup, de voir ce week-end ce que ça va donner, ça va nous permettre quand même d'avoir une bien meilleure idée de la vraie performance de Red Bull, en tout cas.
Si on regarde une petite déclaration de Max Verstappen, c'est à l'arrivée de cette course, on peut en fait se refaire le film et se dire, bah ouais, mais en fait, Max, il aurait peut-être pu le faire. On rappelle qu'il échoue à 1 seconde 6 de George Russell à l'arrivée, un George Russell qui était en maîtrise en fin de course. Oui. Il nous dit, Max, justement, en conférence de presse, c'était une très bonne course pour nous. Les premiers tours étaient amusants. On a ensuite dû gérer les pneus. La voiture était dans une bonne fenêtre de fonctionnement pendant une moitié de course. Et on a ensuite eu des problèmes qui m'ont empêché d'avoir un bon rythme. Donc les problèmes, il nous donne pas le détail, mais on imagine que c'est la surchauffe par rapport à ce qu'a dit Adjar tout à l'heure, mais terminer deuxième de la course et être si proche de la victoire est extrêmement positif pour nous et je suis bien sûr très heureux. Autre propos, c'est Laurent Méquies, le patron français de Red Bull, qui disait dans le débrief de la F1 TV, c'est une course c'est une course très solide, sans doute la meilleure de cette saison. Comme nous en avons discuté après les qualifications, les progrès étaient manifestes, même s'ils étaient difficiles de les chiffrer précisément. Nous voir passer si près de la victoire sur ce circuit exigeant par une chaleur intense témoigne du travail accompli à Milton Keynes et de la performance exceptionnelle de Max. On peut le dire, le problème de Red Bull, ça date pas de cette année, c'est malheureusement le cas depuis 2 ou 3 ans. La voiture, le package, vraisemblablement, semble fonctionner. La difficulté est toujours de trouver cette fenêtre d'optimisation, justement. C'est ce qui leur a fait perdre une moitié de saison l'an dernier.
Oui, puis c'est ce qui leur fait perdre beaucoup de temps à la compréhension. Parce que pour rentrer dans cette fenêtre, parfois, ils y rentrent sans
savoir pourquoi.
Et en fait, quand ils y rentrent, ils n'ont pas le temps de comprendre qu'ils en ressortent. Donc... C'est Isaac qui disait ça après le Canada, qui disait bah, on croyait que la voiture marchait, puis en fait elle marche pas. Donc super, on verra. Mais non, mais là visiblement la voiture, les deux pilotes, elles semblent plus assainies sur pas mal de choses. Je pense que le feeling au volant, certes, est inconfortable, mais est meilleur que ce qu'ils avaient avant, parce que les deux étaient totalement dégoûté du feeling qu'ils avaient. Et je pense que un des bons marqueurs aussi, c'est la performance d'Isaac.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
Parce que Max Verstappen, il peut sublimer une voiture qui marche pas. Alors, je sais pas qu'Isaac Hadjar n'est pas capable de le faire. Simplement, on a beaucoup plus de certitude avec
Max Verstappen. Par expérience, Verstappen, il est capable de gommer les imperfections de la voiture.
Et là, c'est un des premiers week-ends où on a le sentiment que Isaac a la capacité, si jamais il ne se qualifie pas avec ce problème de déploiement en qualification. On a le sentiment qu'il a la capacité d'aller chercher un top 5, un top 4 s'il est plus haut, ouais. Et que ses rythmes en course ne sont pas du tout loin de ceux de Max Verstappen. Ouais. Donc tout le package a évolué, la voiture marche mieux de façon générale. Maintenant, il faut donner un peu de confort aux pilotes, parce que s'il n'y a pas de confort, ils ne peuvent pas aller à 110% dans la confiance.
Exactement. Ouais. Et on rappelle d'ailleurs, c'est important bien sûr de le dire, notre ami Isaac Hadjar, c'était P5 au Canada, P4 à Monaco, P6 à Barcelone, et là à nouveau P6 du côté de l'Autriche. Ça nous fait quand même 4 top 6 consécutifs. Hein. Donc ça montre aussi que dans son intégration à Red Bull, ça va de mieux en mieux, et que cette Red Bull elle-même va de mieux en mieux. Et moi j'ai hâte de voir ce que Red Bull va nous proposer sur l'été. Franchement, si on a un Max Verstappen avec le facteur Max Verstappen, ça peut être un poil à gratter
encore
en plus
une fois,
pour Mercedes.
Quid de la performance des Red Bull si Ferrari ne s'était pas non plus fracassé la tête sur ce week-end.
T'as bien raison.
Parce que il se qualifie à une position qui est Red Bull habituelle. Là, la Ferrari a surchauffé de tous les côtés. J'aurais quand même aimé voir, avec la Ferrari classique entre guillemets, si la Red Bull aurait été autant à son avantage, notamment dû au fait qu'à position plus basse, généralement, tu développes quand même moins de rythme.
Avant de parler de la Scuderia Berezina et de la Scuderia Ferrari de ce week-end, Berezina du côté de l'Autriche, un petit mot les gars, tu as commencé à l'évoquer Pierrot, un petit mot sur McLaren. On a eu un Norris désabusé devant la presse, c'était jeudi, qui a évoqué justement 4 à 5 mois de retard par rapport notamment à Mercedes et Ferrari, désabusé par rapport aussi à la difficulté à comprendre le moteur, à débloquer de la performance sur cette unité de puissance pour McLaren, qui a le statut de client bien évidemment de Mercedes. Votre avis un petit peu sur McLaren. On a vu un Piastri d'ailleurs qui a répondu à son coéquipier, hein, qui s'était fait poutrer du côté de Barcelone il y a 15 jours et qui là cette fois-ci a semble-t-il un peu repris les devants et qui fait pas un début de saison si catastrophique que ça. Non, parce qu'on en a parlé
fait,
hier.
Avec les deux premières courses, tu te dis bah, c'est ciao, mais en fait il est quatrième.
Non, c'est ça. En fait, on a fait une petite conférence de rédac là-dessus pour partager cet avis en fait en trompe-l'œil auquel on s'est rendu compte nous en travaillant, en préparant cette émission.
Bah c'est ça. En fait, moi, je pensais que Piastri était effectivement plus loin et un peu plus derrière de Norris, mais en fait, c'est Lucas qui disait que Norris faisait pas d'erreur, faisait probablement l'une de ses meilleures saisons. C'est juste que comme il a pas de chance, bah c'est plus difficile à voir. Mais Piastri est vraiment pas loin derrière, et en tout cas, bah il fait jeu égal. Voire,
il est devant. Hein.
Il est devant. Non mais alors sur l'Autriche, oui, mais
au classement des pilotes, il est repassé devant, ouais.
J'avais en tête les qualifs.
Mais oui, pardon,
le duel en qualif, bah, je crois que Piastri est devant, ou en tout cas,
non,
c'est
kiff-kiff. Ils sont à 4-4 et Norris a égalisé en Autriche. Donc il était devant.
Donc en fait, on a une. Enfin, moi, j'avais en tout cas une vision assez biaisée de Piastri sur le début de saison pour le moment. Effectivement, moi, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a pas eu d'amélioration depuis un petit moment sur la McLaren. Ça arrivera quand ça arrivera. Ils arrivent à s'en sortir, ils arrivent à tirer, à pouvoir aller chercher quand même quelques points. Circonstanciellement parlant, mais c'est un peu dur quand même.
Il y a un drop quand même entre essai libre et qualif qui fait peur, hein.
Ouais.
Sur les tours de Q3. Bon, alors après, l'année dernière, mine de rien, par rapport à l'avance qu'ils avaient en essai libre et l'avance qu'ils avaient en qualif, ça se réduisait énormément. Mais là, du coup, bah, ils le payent très cher, hein, parce que tu as toujours à peu près l'impression que les deux forces du week-end, c'est Mercedes et McLaren, qui sont assez bien placés. Et là, il te cogne des 7e places, tu sais pas d'où ça sort. Il n'y a pas de perf à débloquer en Q3 le samedi. C'est assez inquiétant. Mais après, je comprends Norris. Hein. Enfin, tu te battre pour la P7 et la P8 et sentir qu'il n'y a rien à faire de mieux. Et devoir attendre un package parce que le package que tu as, il est optimisé, qu'il a servi, mais que tout le monde a amélioré. C'est aussi un peu.
C'est ça le problème, c'est que tout le monde a amélioré.
Mais c'est aussi un peu le souci de ce budget de cap. Enfin, c'est un peu le revers de la médaille. C'est que comme tu as trop 4 salles d'amélioration, quand tu en amènes une, tu fais un bond exceptionnel. Et dès que les autres amènent,
on va pouvoir s'inquiéter pour Ferrari, parce que
en prison.
Et inquiétons-nous pour Ferrari, les gars. Inquiétons-nous tout de suite pour Ferrari. Passons à ce troisième enseignement, la Scuderia Berezina. On a mis un point d'interrogation, on a du respect pour cette grande maison, celle de Maranello tout de même. Ferrari, allô ?
Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un dans le tuyau ?
C'est-à-dire, ça c'est voilà. C'est un titre très imagé, œuvre de Brice Germain comme à chaque fois. Ferrari, le soufflet est déjà retombé, les amis, c'est la question qu'on va se poser. Alors que Ferrari ramenait sa première évolution moteur en Autriche,
tu me l'apprends.
Autorisée par la Duo. Alors, évolution qui concerne le moteur thermique, pas une grosse révolution qui a permis notamment l'introduction d'un nouveau carburant du côté de chez Shell. C'est la deuxième grosse évolution moteur, la principale, elle sera surtout attendue du côté de Monza. Il y a eu la douche froide déjà après la pole de Russell, puisqu'après le crash de Verstappen et le déploiement du drapeau jaune, puis du double drapeau jaune dans le dernier virage, on pensait voir Ferrari justement verrouiller cette première ligne. Finalement, ils se sont fait sauter par George Russell. Un rythme amputé par des problèmes de température, impressionnant en tour rapide en qualif, en souffrance dès le premier relais en médium, trop lente notamment dans les lignes droites, trop de surchauffe, ils ont dû gérer les températures, plus bien sûr qu'attaquer. Une stratégie décalée, contrainte plutôt que choisie. C'est une question là aussi que je vous pose, mais j'ai entre guillemets mon avis sur la question, puisque on rappelle que c'était grâce à l'audace d'une stratégie décalée en trois arrêts qu'Hamilton avait réussi justement à s'imposer du côté de Barcelone. Ce week-end, ils ont opté toujours pour cette stratégie à trois arrêts sur les deux voitures, sur les deux pilotes, mais on a l'impression que c'était plus une contrainte par audace, on va dire, parce qu'ils étaient justement atteints par la dégradation, par la surchauffe, et de toute façon, ils n'avaient aucun rythme sur les différentes typologies de pneumatiques qu'ils ont pu essayer. Cette stratégie n'a pas été payante. Comme le dit d'ailleurs Fred Vasseur, les gars, il n'y a pas de question autour de la stratégie aujourd'hui, parce que quand on n'a pas de rythme, on n'a pas de rythme, mais la stratégie ne rentre pas là-dedans.
En fait, le truc, c'est que Hamilton voulait partir sur trois arrêts et partir en soft, déjà de 1. Et moi, je m'étais dit, effectivement, au moment du départ, hâte de voir les pneus, parce que je sens un petit Lewis Hamilton, il va avoir envie d'aller chercher une meilleure impulsion, de faire du 3 arrêts, quand tout le monde va essayer de faire du 2 arrêts, avec la grande inconnue de savoir si les softs tiennent.
Il n'y avait pas de 9, hein. Il n'y avait plus de soft 9 aussi, ça peut être une des raisons qui...
Complètement, mais c'était la grande interrogation des softs, de savoir si ça allait tenir plus de 2 tours ou pas. En tout cas, tout le monde a joué la précaution à juste titre, mais effectivement, le 2 arrêts était la stratégie de base. Et en fait, ils ont maquillé entre guillemets la perte de rythme qu'ils ont eu avec ce 3 arrêts. Est-ce que ça valait le coup de mettre les softs en plein milieu de la course ? Je sais pas. Est-ce que généralement on fait pas plutôt un hard et on pousse loin pour mettre les softs en fin de course avec une voiture légère et attaquer ? Généralement, c'est plutôt ça qu'on fait. Je suis pas sûr que ça allait changer quoi que ce soit, mais en tout cas, les Ferrari avaient pas le rythme et avaient trop de dégradation pour tenter 2 arrêts. Et voilà. Donc on voit que le 3 arrêts de Hamilton est juste un maquillage d'un rythme qui était beaucoup trop beaucoup trop faibles, surtout sur le début de course où en fait ils ont surconduit pour essayer de s'accrocher avec les Mercedes. Et...
Est-ce qu'ils ne sont pas vus trop beaux en fait ce week-end, Ferrari?
Bah, ils se sont vus trop beaux dans la mesure où, en début de course, ils sont tous les deux dans une extrême attaque parce que l'objectif, c'est Mercedes. Et je pense qu'on n'a pas du tout calculé le fait de devoir se défendre de Piastri ou de Red Bull. alors qu'avec l'avantage de la track position, potentiellement, peut-être que tu arrives à les gérer. Je pense que c'est une des défenses que Ferrari peut avoir vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais globalement, enfin, encore une fois, tu peux avoir toutes les défenses que tu veux. Si tu as un vélo à côté d'une voiture, tu iras pas bien loin, quoi. Et quand tu vois l'état des pneumatiques, certes aggravé par cette attaque de début de course, mais les moteurs, enfin, tout était en surchauffe chez Ferrari. La voiture, à ce moment-là, elle subit des avaries terribles. Et je pense que c'est pas la même voiture qu'on a vue à Barcelone. Si tu veux, quand je dis ça, c'est, pas que par rapport aux évolutions. C'est que cette voiture est dans une fenêtre qui lui permet absolument pas de performer. Bon, bah, au vu de ce qui s'est passé, c'est après 10 tours, on savait qu'il fallait rentrer à la maison, quoi.
Bah, au début, il y a que ça à faire. Oui, mais au début, on se disait, tiens, il y a un problème pour Leclerc. Puis après, ah tiens, il y a un problème pour Hamilton.
Elle lâchait beaucoup trop plein d'huile. À chaque fois, je me suis dit, oh, la casse moteur, ça y est. Et en fait, non.
Mais même sur le déploiement d'énergie, les gars, moi, il y a deux scènes symptomatiques. C'est la bataille Max Verstappen, Lewis Hamilton sur le virage numéro 5, qui est pas un vrai virage.
Les émotions.
Qui est une sorte de courbe un peu, de ligne droite un peu incurvée. Quand tu vois le déploiement de la Red Bull, tu dis mais mince, ils peuvent déployer Ferrari. Et pareil, tu sais, quand Leclerc se fait dépasser, alors, chose qu'on n'a pas eu depuis des années, un dépassement au virage numéro 10, je crois, ou au virage numéro 9.
Oui, c'est Antonelli qui dépasse
Charles Leclerc, et tu te dis mais
j'ai vu Melbourne
de batterie ou quoi, c'est quoi le souci, quoi. Bah, c'est assez étonnant, des images assez étonnantes.
La voiture était lente, tout simplement. Je pense qu'ils ont eu vraiment des problèmes de partout, sur la batterie, sur le déploiement, sur le moteur qui, à mon avis, du coup, est toujours un peu en test et en réglage. Hein. Le vendredi n'a pas été ouf chez Ferrari. La compréhension du carburant également. Enfin bref, il y a tout plein de choses qui faisaient que ce week-end-là n'était pas abordé dans la plus grande des sérénités chez Ferrari. Maintenant... Là, ça, en quelque part, moi, ça me va. Ça, c'est des excuses pour moi. Ça, c'est possible. La voiture, elle tient pas. Maintenant, quand tu tentes la stratégie que tu as tentée avec Hamilton et que Leclerc défend sa position comme il l'a défendue,
à un moment donné, en fait, c'est vrai,
arrêtez de vous saboter. Arrêtez de faire ça.
Il n'y en a pas un pour leur dire non, mais vous attaquez pas, vous êtes sur des stratégies décalées,
vraiment,
etc.
La stratégie n'a rien à voir. Il va passer de toutes les façons. Hamilton, s'il bouffe du capital pneumatique sur des softs, sur une piste à 54 degrés, alors qu'il doit remonter sur Piastri, c'est débile, c'est complètement débile. Et aujourd'hui, si Hamilton termine 5e, je suis pas sûr qu'il ait eu le rythme pour aller chercher Piastri, mais à la base quand même il était entre Verstappen et Antonelli. Il avait quand même de quoi jouer un podium, peut-être pas en rythme, mais
ah, c'est peut-être ça qui l'empêche d'attaquer un peu plus Piastri, par exemple.
Pourquoi vous faites ça? Je sais pas si c'est Leclerc qui a une réaction d'ego en disant genre non c'est mort.
Je pense que c'est peut-être une bonne explication.
Non mais j'ai pas envie d'accabler Leclerc qui souffre de plein de choses.
Arrêtez de défendre Leclerc comme ça, c'est insupportable.
Je défends pas, j'ai pas envie de l'accabler. C'est pas pareil.
Par contre, Charles Leclerc, je pense qu'il avait pas la consigne de savoir qu'il allait rentrer au stand ce tour-là, donc du coup il défend sa position.
Ah oui, en plus il rentre.
Il défend sa position comme il défend sa position sur n'importe qui d'autre, donc je pense que c'est à peu près normal, mais c'est juste que là ils sont emmêlés les pieds dans le tapis sur la.
Il n'y a pas la même strat.
Mais bien sûr.
Pourquoi?
Mais je sais bien.
Pourquoi? Bref. En fait, c'est du sabotage ensemble. J'ai l'impression de revoir Vettel-Leclerc en 2019 au Brésil.
Il y avait un peu de ça. Il y a eu quelques surfroids encore une fois.
Vraiment, j'étais mort KO de ma course hier.
Ça t'a réveillé.
Vraiment.
Et ça l'a énervé.
Je me suis levé et j'ai fait... Pourquoi? Vraiment, pourquoi? T'es désabusé.
Et après, hop, il a tourné de l'œil, terminé.
J'ai tombé.
Juste de déclaration, les gars, pour prendre le sentiment des pilotes après ce week-end qui a été quand même très très compliqué, parce que lorsqu'on voyait les Ferrari partir des deuxièmes, moi franchement, samedi soir, je me disais, les gars,
ah, la course qu'on allait avoir,
on va avoir une course de fou.
La course qu'on allait avoir.
J'avais même oublié Antonelli.
Deux contre deux. Bah, moi, il y a eu moyen de faire des strats entre les voitures, entre les pilotes et tout.
J'étais même parti sur un truc, ouais, c'est un deux contre un pour Ferrari. Bon, j'étais peut-être parti un peu trop vite, un peu trop fort, mais c'est vrai, tu vois. Et au final, bah, c'est 5e et 8e.
C'est fou quand même, parce que la théorie de l'évolution t'apprend que normalement le corps, le corps apprend des choses qu'il vit.
Pas du tout.
Et avec Ferrari,
pas avec Ferrari.
Avec Ferrari, ça fait 20 ans que dès qu'il y a une double, enfin une première ligne ou quelque chose, on se dit ça va le faire. Vraiment, c'est l'exception qui confirme la règle. L'humain n'est pas capable d'apprendre de Ferrari.
Mais je te rassure, ceux en interne aussi apparemment. Voilà, c'est ça qui est plutôt bien.
We will win.
Petite déclaration les gars, celle de notamment Lewis Hamilton pour commencer. Lewis Hamilton a senti un brin frustré. Ça a été court mais efficace. Nous allons devoir pousser très fort pour voir quand nous pourrons obtenir la prochaine évolution du moteur. Elle n'arrivera pas avant un moment. J'espère que la voiture sera dans une meilleure situation à Silverstone.
Il fera moins chaud à Silverstone, mais quand même, il prévoit plus de 30 degrés.
Ouais, mais si c'est à peu près la même chose qu'à Barcelone, laissez-moi dans mon déni et je vais espérer.
T'as pas rien. T'as pas rien, t'as pas envie d'apprendre. Hein.
Non, là, visiblement,
ça
non.
Fait 20 ans, ça dure.
Mais quand ça fera P1, P2 dimanche avec victoire de Lewis, je vais complètement regretter mais cette
quand
cette
Raikkonen est champion, j'ai pas encore pris ma première bière de ma vie. Hein.
Voilà, hein. C'est fou. Et combien de litres a-t-il bu depuis? Charles Leclerc aussi, pareil, c'était sur Viaplay, vous savez, le diffuseur néerlandais, très proche de Max Verstappen. Charles Leclerc, elle est dure, cette déclaration. Attention, hein, alerte spoiler pour ceux qui sont fans de Charles Leclerc et en souffrance en ce moment. 2021 a peut-être été une année douloureuse, mais honnêtement, peut-être pas autant que celle-ci. En ce moment, je suis vraiment à la traîne en termes de rythme. D'un point de vue extérieur, ça vous paraît difficile. Ça l'est aussi dans mon fort intérieur.
Tu le vois au pilotage. Hein.
Bah oui. Bon, tu le vois sur à peu près tout. Hein.
Bon, déjà, bah, la seule chose sur laquelle tu peux éventuellement, à la rigueur, lui dire change quelque chose, c'est qu'apparemment, il veut pas changer les freins.
Oui. Alors lui, il serait mieux.
Ah, il resterait sur les.
Il veut pas aller sur carbone.
Sur carbone industrie, ouais. Donc, tout à fait.
Bah après, c'est toujours une question de feeling parce qu'au final, en termes de perfo, ça reste similaire, mais c'est une question de feeling sur les attaques de frein.
Ça mord mieux sur l'attaque de frein, ouais. Et du coup, bah, il a pas envie de changer ça. Donc, un tremblement de terre en studio, je sais pas ce qui se passe.
Non mais par contre
c'est Charles qui arrive.
Il y aurait quand même un défaut sur les Brembo, sur ceux qui sont livrés en tout cas en 2026. Et il essaierait de travailler, de réadapter son freinage justement pour continuer d'utiliser les Brembo.
Enfin c'est pas le Charles Leclerc freineur qu'on connaît. Hein.
Ah non,
tu le vois pas poser la même qu'à Las Vegas sur Perez là. Hein.
Ah bah zut.
Parce que sinon ça va être mûr. Bah ça l'a été.
Bah voilà.
Où ça? Barcelone.
Quoi? Allô? Allô? Non. Allô Ferrari? S'il vous plaît.
En attendant, 14 Monaco points, aussi. C'est le pire résultat de la saison hein, ouais. Pour Ferrari.
Mm-mm. Bon, bah écoutez. Moi, je crois
c'est
en
que la saison n'est pas si mauvaise.
Oui, c'est vrai que dit comme ça, comparé à 2020, par exemple.
Vert à moitié plein, vert à moitié vide. Quoi.
Oui, vous voyez ce que vous voulez. On n'a plus que ça. Hein.
Cette Ferrari qui avait du vert. Là.
C'est peut-être pour ça. On a terminé sur Ferrari, les gars. Rien à rajouter sur la situation de la Scuderia? Oui, c'est le moment de vider ton sac.
Est-ce qu'on peut retaper sur Charles Leclerc, puisqu'on nous dit à chaque fois qu'on défend trop Leclerc?
Bon, non,
attends, j'en profite.
C'est soit tu le défends trop, soit tu l'attaques trop, mais on n'est jamais dans le juste milieu.
C'est vrai.
Non, mais attends, je profite de cette mini parenthèse. Il y a une hate en ce moment autour de Charles Leclerc où je trouve que justement, il faudrait peut-être être un peu plus mesuré. Hier, on commentait le Grand Prix avec Lucas sur Lucas Parlait Fin sur une autre chaîne et les gens disaient. Ouais, vous défendez Charles Leclerc. Il ne sera jamais champion du monde. Vous l'avez vu ici en premier. Tu sais, il y a vraiment
comme si il y en a qui ont été champion du monde en premier il y a 8 ans. Hein.
Ouais, c'est ça, tu vois. Alors bon, nous, on a toujours critiqué Charles Leclerc quand il faisait des erreurs et il continue bien évidemment.
Et on critique quand il se critique aussi.
Et on critique quand il se critique exactement. Et surtout, on le dit quand il fait des progrès. Mais faut être un peu mesuré sur la question Charles Leclerc. Même s'il est en difficulté.
Quel chef, putain.
C'est important, les gars, c'est important.
Non, puis c'est même pas qu'une question de rythme, c'est une question d'adaptation à certaines choses, enfin à certains. Composé de la voiture et Hamilton s'en sort mieux avec cela. Enfin, qui est capable sereinement et intelligiblement de te dire Hamilton c'est une chèvre parce qu'il s'est battu deux ans par Russell. Bah non, il y a des composants qui lui conviennent moins bien, il y a un style qui lui convient moins bien et c'est normal, ça arrive.
Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde à ça?
Bref.
Quatrième enseignement, les amis. Encore une fois, on a le droit de penser toutes les choses, hein, bien évidemment, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est toujours d'argumenter. Racing Bull, Ecker, le midfield, les gars. C'est Vécarb en feu dans le sens propre sens propre comme au figuré, pardon. Racing Bull, encore un double top 10. C'est la troisième double arrivée dans les points consécutifs. 9e et 10e avec un Lawson qui termine une nouvelle fois meilleur des autres. Seul au monde dans ce midfield, ils n'ont pas été pressés par leurs adversaires. Seul en buscade, pardon. La stratégie en faveur de Lawson lors des arrêts qui a fait suite aux roues en feu justement du Néo-Zélandais en début de course. Lindblad n'a pas voulu forcément eh bien, respecter cette consigne et a dû finalement eh bien, se raviser. Bref, parfaite exécution au global. À côté de ça, quand on prend le cas des autres écuries, pire week-end cette saison pour Alpine, si Gasly a failli éliminer Verstappen pour quelques millièmes en Q2, manque de rythme tout le week-end pour l'écurie française. Premier week-end sans points d'ailleurs en 2026 pour Alpine. Audi correct mais surclassé, très bon week-end mais trop loin des Racing Bull. As, aucun rythme ce week-end et une stratégie cataclysmique qui condamne Ocon après un départ absolument fantastique et deux premiers tours absolument magnifiques. Et puis, force est de constater, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de cette saison, mais Williams c'est quand même loin d'être fameux. Double élimination encore en Q1, encore le troisième pire rythme en course avec des problèmes de fiabilité en plus pour Sainz. Bref, on n'en parle pas beaucoup les gars, mais cette Racing Bull, elle est franchement impressionnante alors qu'elle n'a même pas la meilleure motorisation de ce plateau.
Bah, enfin, si.
La meilleure moteur thermique, mais bon.
Meilleur moteur thermique.
Oui, mais on sait qu'aujourd'hui les batteries sont
quand même importantes. Tout de suite.
Non, mais
tu remets en question la duo.
C'est plus un championnat des V10 et des V8.
mine de rien, en fait, quand s'il n'y a pas une écurie qui à côté qui performe, Racing Bull est quand même toujours assez bien placé pour aller récupérer ce qui reste. Enfin, moi, j'élimine très sincèrement Williams et As de ton calcul. Hein. Parce que Williams et As, c'est
aujourd'hui maintenant, oui,
ils sont trop. Enfin, c'est vrai que en performance, c'est trop faible. Mythique,
hein. Désolé, aujourd'hui maintenant, oui. Mais As, il y a pas si longtemps, ça marquait des points, mais là, ils se sont complètement paumés. Moi,
j'attendais. Il faut des circonstances, hein.
Oui et non.
Ou des super strats.
Oui, sur les VSC de Oliver Mann sur les premiers Grands Prix, mais en termes de rythme et en termes d'équilibre de voiture, As, c'était quand même pas trop mal. C'était quand même très correct pour la tête du midfield avec le moteur Ferrari, etc. Et les envolées qu'ils arrivaient à faire. Bon, plus maintenant. Hein. Mais du coup maintenant ça s'est un peu vautré et en fonction des circuits qu'on a visités il y a moins de doutes là-dessus. Pareil, Williams, il y a eu un regain de forme à un moment donné parce qu'ils avaient corrigé leur problème de poids. Mais là, c'est reparti dans des sphères. Tu comprends pas ce qui se passe.
Bah là, ils en souffrent réellement sur ce week-end.
Là, c'est l'enfer. Je pense qu'effectivement, la chaleur a mis en exergue les défauts de toutes les voitures. Le fait...
Cadillac,
on pourrait dire, oui.
J'ai un quiz pour vous par rapport à ça après.
Mais aussi dans l'autre sens, dans le sens où peut-être que les voitures qui ont performé, c'est parce qu'il faisait trop chaud et qu'elles sont peut-être rentrées aussi dans leur fenêtre d'exploitation. On n'en sait rien, on verra effectivement à Silverstone et sur les prochains Grands Prix comment ça se passe. Mais en tout cas, la Racing Bull, moi, m'impressionne. Liam Lawson m'impressionne aussi.
Aussi, t'as raison.
Parce que mine de rien, il est à deux doigts de mettre une McLaren derrière et qu'on n'en parle plus. Et la course, elle est peut-être pas la même pour Lawson.
Puis il a un client à côté de lui. Hein.
Et Arvid Lindblad.
Lindblad, il y a un moment donné où il va falloir parler de son cas.
Ah,
parce que il y a certes des moments où il est un peu moins bien, mais pour une saison de rookie. Alors.
Méga difficile. Bah, en fait, le problème, c'est qu'on peut pas le comparer avec un autre rookie puisque c'est le seul. Mais par contre, la saison qu'il fait, excusez-moi, mais c'est monstrueux. Hein.
Non, mais il se pointe dans une nouvelle réglementation avec des paramètres à gérer. Alors, c'est un avantage comme un inconvénient parce qu'au final, tout le monde découvre cette réglementation. Mais, enfin, je veux dire.
Il faut apprendre le métier quand même.
Il est quand même toujours là. Et t'as à côté de lui. Enfin, moi, c'est de la grande satisfaction cette année de Racing Bull parce que, bon, la voiture, elle est ce qu'elle est. On la connaît, ça fait 5 ans qu'elle a le même ADN. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Tu peux pas dire autre chose là-dessus.
Ouais, mais un peu plus saine et simple que la Red Bull.
Ah bah oui.
Mais comme toujours. Mmh. Et au final, cette écurie est quand même merveilleuse pour accueillir des jeunes pilotes. Merveilleuse. Parce qu'elle te permet quand même d'apprendre sur une voiture qui est souvent très saine, qui n'a pas forcément une performance génialissime, mais qui peut quand même être conduisible à peu près partout. Enfin, fais ça avec une Red Bull, on a vu quand même tous les gens qui sont passés à la poubelle après j'ai allé chez Red Bull. Donc t'as Lindblad quand même qui est dans une optique où il veut faire des résultats sans pour autant en fait devoir surperformer et montrer quoi que ce soit. Et je pense que ça aide qu'un jeune pilote soit arrivé chez Red Bull comme Isaac Hadjar parce que tu sais que le baquet n'est pas prenable à la fin de l'année. Tu sais aussi qu'à côté de lui, le pilote c'est Liam Lawson qui est déjà passé chez Red Bull et qu'a priori il y retournera pas.
Après là, attention, il y a Soloff pousse au portillon.
Oui,
c'était la grosse rumeur de ce week-end. Hein.
Mais quant à Lawson qui revient de chez Red Bull, j'y reviens avec un mindset positif. Et à côté de ça, Lindblad, c'est la première saison, on ne lui demande pas grand-chose. Je trouve que les deux, quand même, sont dans une dynamique où l'écurie progresse bien. Et quand tu arrives à faire, quand tu as la cinquième meilleure voiture, double arrivée dans les points deux fois de suite, c'est ça qui est très impressionnant, je trouve. Ouais. C'est d'arriver à placer cette voiture qui, si elle fait une fois les points, est déjà bien. Deux fois. Et deux fois deux. Franchement.
Bah, de toute façon, pour midfield, c'est très simple. Il n'y a que trois points à aller chercher. Il y a la P9 et la P10. Donc à partir
de ce moment-là, abandon, mais...
sauf abandon devant. Mais en termes de rythme pur, moi je pars du principe, et je trouvais que c'était un petit peu le cas pour l'Alpine, notamment de Pierre Gasly en début d'année, c'est que si tu pars en tête du midfield, le Big Four là, ça s'échappe, donc t'as du clean air, t'es pas dans le trafic, tu peux faire ton rythme. Il suffit que les deux trois bagnoles derrière se mettent des coups de boost, des coups de batterie, etc. et donc perdent du temps, et donc du coup tu te construis un matelas pour ta course. C'est pas la même limonade que d'être dans le paquet, faire une Esteban Ocon à se retrouver à se faire avoir par la VSC, 6 secondes et demie de pit stop, on n'a pas mis les bons pneus, la voiture il manque 30 kilos à l'arrière. Bon, bah oui, forcément, quand tu pars devant, je trouve que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que quand tu pars devant en tête du midfield, t'as de quoi peut-être avoir une arme supplémentaire par rapport à quand t'es dans le milieu de peloton.
Dans tous les cas, hein, c'est si t'as l'avantage de la track position et que le rythme des voitures est similaire, enfin, il va falloir quand même pousser très très fort
aussi,
pour
oui,
aller.
Sûr, hein.
En tout cas, ça va te coûter de tenter de dépasser.
Oui,
ça va te coûter en capital pneu, ça va te coûter en batterie, ça va te coûter en tentant un pari stratégique. Ce qui fait qu'au final, quand t'as on va dire à l'échelle de Racing Bull deux assurances que sont Lindblad et Lawson, parce que je trouve qu'ils opèrent réellement comme deux assurances, parce que tu les vois pas crasher, tu les vois pas, enfin c'est très fort, ça leur permet aujourd'hui de rester entre guillemets au contact d'Alpine au championnat. Alors à coup de 3 points, c'est un peu compliqué quand Gasly en met 15 à Monaco, ça c'est sûr.
Bah, mais, heureusement qu'il en met 15 à Monaco, sinon
oui.
Ce serait pas la même limonade.
En tout cas, la perf est significative, dans le sens où les points qu'ils mettent à Barcelone, il y a Leclerc qui abandonne et il y a Antonelli qui abandonne. C'est-à-dire que faire double point, ils sont plus que 6.
Ah, c'est ça. Ouais.
Là, ils font ça avec les 8 qui sont à leur place. Hein. Donc c'est très fort.
C'est fort.
Bien
c'est
aidé encore une fois par le fait que le package d'Alpine n'a pas fonctionné ce week-end. Mais...
Exactement. Et moi j'ai apprécié l'attitude de Lindblad, justement le vice pour essayer de passer à tout prix et bien son coéquipier et de ne pas respecter les consignes, même s'il était vite rappelé à l'ordre dès que derrière ça a fonctionné.
J'ai un mini quiz pour vous qui a rien à voir avec Racing Bull. Simplement, ça m'a fait extrêmement rire. À votre avis, qui a complété le plus de tours cette saison entre Cadillac et Aston Martin?
Ah.
Il y a un vrai duel.
Mais je pense que c'est Aston. Hein. Parce que.
De tour en course.
Ouais.
Parce que mine de Cadillac a eu beaucoup de problèmes techniques, même si on est impressionné par presque les performances.
Lance Stroll.
Non, je parle entre les deux écuries.
Ah, moi, je pense qu'Aston a fait plus de tours que Cadillac.
Aston, je dirais.
Bizarrement.
Je vais revérifier quand même. Mais
Aston, ça ne serait pas impossible. Parce que.
Je vous le dis, on a deux d'écart.
Il y en a deux d'écart.
Il y a deux tours
d'écart.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'espère que c'est à l'avantage pour une fois d'Aston. Hein, parce que...
Je crois pas.
Ah merde.
Ah, en fait, je me souviens plus. Mais je crois que c'est 677 à 675. Quand vous prenez l'ensemble des tours depuis que le début de la saison, ça fait genre 60% des courses.
C'est fou.
Non, mais
le plus drôle quand même, c'est de faire à peu près le même nombre de tours avec deux usines qui n'ont pas le même prix. Il y en a une qui vaut 230 millions avec des Adrian Newey, etc. D'autres qui sont dans des préfabriqués avec la clim qui marchent à peu près et qui font quand même des bagnoles depuis un peu moins d'un an, enfin depuis un an et quelques.
Et t'as quand même Bottas dans une écurie, donc ça handicap aussi. Ah, mais t'as Stroll
aussi. Ouais.
Juste trois chiffres, faut qu'on avance, il faut qu'on termine cette émission. Oh. Mais trois chiffres à vous donner. Aston, il y a une seule voiture qui est arrivée à l'arrivée, c'est celle de Alonso. Il a terminé à 3 tours du leader. Il a terminé à 1 tour de la Williams qui le précédait. Et on n'oublie pas qu'Aston Martin pointe à 4 secondes des meilleurs tours en qualification. Voilà.
On n'est pas loin des 107%. Ouais.
Et j'adore parce qu'ils se font des kiffs à mettre des softs tout le temps là. Ouais. Ils donnent à Alonso des softs, genre reste s'il te plaît, à minima fait des tours de qualification, correspondre au tour de course sous VSC de Russell, concrètement. C'est
et Nando, le gros mytho, qui dit cette semaine ouais, non, mais moi je vais rester chez Aston. Alors, que ce soit dans un rôle de pilote ou d'encadrant, mais c'est un projet d'avenir qui va réussir et je veux être là
quand même. Tu m'étonnes, le chez Kos.
Le frérot, dans deux mois, il a pris.
J'espère qu'il a
pris la qualif. Après la qualif, la déclare d'Alonso, elle est lunaire. Good job, guys, we are getting closer.
Alors, closer
le magazine.
Des fois, je me dis que c'est un peu d'ironie et que.
Bon, ça n'avait pas l'air.
Ça n'a pas l'air, c'est vrai, t'as raison.
C'est terrible.
Regardez,
c'est dans son contrat, je pense.
Ouais, ça doit être obligé. Ça doit être obligé. Regardons le classement des pilotes et des constructeurs, les gars, avant justement eh bien, de se quitter pour mieux se retrouver dès la semaine prochaine. Antonelli, toujours leader, 40 points d'avance sur George Russell qui est repassé devant Lewis Hamilton. 6 points d'avance eh bien, pour Russell sur Hamilton, tout simplement. Vous l'avez vu, Piastri repassé devant. devant Norris et Leclerc baisse un petit peu dans cette hiérarchie, désormais talonné par Max Verstappen, deux Français dans ce top 10.
Leclerc n'a jamais eu un écart de points aussi important depuis Vettel Canada 2019.
C'est énorme.
Et bah voilà.
C'est beaucoup trop.
Sans
dit long.
C'est factuel, un jeu.
Et la saison est encore longue, on verra bien évidemment. Mais t'as raison de préciser,
c'est pas de sa faute, c'est un bon petit marqueur.
C'est un bon petit marqueur. Arrête, les gens vont dire qu'on le défend tout le temps après.
C'est pas que de sa faute. Nuance.
Alors là on va conseiller un truc, c'est que c'est quand même un peu de sa faute. On sera d'accord.
Pas d'amalgame.
Exactement. Classement constructeur avec forcément toujours la balade de Mercedes qui compte quasiment 100 points d'avance désormais sur. Ferrari et puis vous le voyez Alpine à la cinquième position toujours avec ce petit avantage sur Racing Bull. Red Bull oui qui revient hein, qui est plus tout dans le match avec Alpine qui désormais bien se rapproche en tout cas de McLaren. Ouais, non, parce qu'au début de saison, on avait dit ça.
C'était...
On s'était posé la question de savoir si Red Bull était une écurie justement du midfield.
Gasly était devant Verstappen à un moment donné au classement.
C'est exactement ça. Voilà, les gars. Vous le voyez, c'est écrit en bas de votre écran et on va le faire comme le dirait un certain Flavio Briatore. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix à domicile d'Alpine. Ça se passera bien sûr du côté de Silverstone. On espère que vous avez passé un super moment, en tout cas en notre compagnie, avec l'excellent Brice Germain, avec l'excellent Pierrot des Pierrots. Et puis on a une pensée bien sûr pour l'excellent Hamza Rahmani qui sera de retour, on ne sait pas trop quand. Mais c'est promis, il reviendra en paddock pass quand la Coupe du Monde aura terminé.
Tu parles. Ouais. En train de signer avec TicSport.
S'il est encore suffisamment digne de lui encore, hein, évidemment.
C'est pas le genre du frérot de rester aux États-Unis.
Aux États-Unis, non. Par contre, je le vois quand même bien rechercher sur ce celohe.com un appartement à Buenos Aires et ne pas quitter le continent.
Il y a moyen que ça se termine comme ça. Merci RMC, merci du soutien. Et important pour vous aussi, allez vous abonner au paddock RMC pour avoir toutes les informations relatives à cette émission. Toute l'actualité de la Formule 1, bien évidemment, disséquée et décortiquée. Et merci à Brian Levavasseur, notre chef d'aide, notre ange gardien, sans qui cette émission ne serait pas possible. Merci à la régie, merci à vous tous. Et n'oubliez pas de commenter cette émission en commentaire. C'est très, très important. On continue le débat, bien évidemment. Ciao, les amis.